printemps des banques centrales. Effectivement, c'est le sujet en ce début de semaine, après une séquence banque centrale qui aura été particulièrement rythmée au cours des derniers jours. Alexandre Tavadzi est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable CIO Office et recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le dis de manière un peu ironique, mais réelle, le printemps des banques centrales a débuté en Suisse la semaine dernière avec une baisse de taux surprise, entre guillemets, délivrée par la Banque Nationale Suisse. Je veux bien qu'on dise un mot spécifique de la Suisse et pourquoi la Banque Nationale Suisse a eu la première, les marges de manœuvre pour accommoder ou régler différemment sa position de politique monétaire. Et est-ce que plus généralement, la baisse décrétée en Suisse la semaine dernière préfigure quelque chose qui serait un mouvement presque synchronisé de la part des banques centrales majeures dans les prochains mois?
L'élément suisse principal, c'était la force de la monnaie, puisqu'en réalité, le franc suisse était extrêmement fort et que sa force avait été un sujet de discussion à Davos. Thomas Jordan avait déjà mentionné la force du franc suisse comme étant un important paramètre économique, puisque finalement, les entreprises suisses, qui sont des entreprises fortement orientées vers l'exportation, n'arrivaient plus à fonctionner dans ces conditions-là. Étant donné que l'inflation dans la zone euro était plus importante en 2023 qu'en Suisse, les entreprises suisses avaient pu compenser une partie de la force de la monnaie en augmentant leurs tarifs à l'exportation. Avec la convergence maintenant des paramètres d'inflation, bien cette option n'était plus valable, ce qui commençait à poser un problème de croissance du tissu économique suisse. Et puis de l'autre côté, l'inflation n'est plus tellement un sujet de discussion en Suisse. Nous sommes avec une inflation largement inférieure à 1,5%, ce qui permettait à la Banque nationale suisse de premièrement crier victoire sur l'inflation. L'inflation est enfin sous contrôle, mais également et surtout de s'occuper des paramètres de croissance dans un environnement où la force de franc suisse commençait à poser problème à certaines entreprises à l'exportation.
Est-ce que cette décision pave la voie à d'autres décisions de banque centrale? On pense bien sûr côté européen, la Banque Centrale Européenne. Et au regard des communications qui ont été délivrées la semaine dernière, que ce soit par la Banque d'Angleterre, la Fed, ou précédemment par la Banque Centrale Européenne, Alexandre, est-ce qu'il y a quand même l'idée d'un mouvement synchrone qui se dégage au moins sur une première baisse de taux à horizon du mois de juin?
Oui, très clairement. Du côté de la Réserve fédérale, ce qui nous a été annoncé la semaine passée est clairement en train d'ouvrir la porte pour une première baisse de taux d'intérêt. On peut toujours discuter du mois, mais je crois que le fait de baisse ou non baisse est maintenant derrière nous. Il y aura baisse de taux d'intérêt. Nous avons calé de notre côté la première baisse aux environs du mois de juin. Et puis du côté européen également, on se rend compte maintenant qu'il y a plus ou moins, enfin il y a passablement de discussions ouvertes qui sont apparues dans la presse financière, avec également certaines personnes qui disaient que même à partir du mois d'avril, c'est là qu'il faudrait intervenir, mais très probablement en juin également. Donc la Suisse, qui pour une fois était anticipatrice par rapport aux autres banquiers centraux, a ouvert effectivement le chemin vers une baisse des taux d'intérêt généralisée cette fois-ci du côté des banques centrales des pays développés.
Est-ce que le marché comprend bien la signification de ce réglage des positions de politique monétaire, à commencer par le sens que la Fed veut donner à ces baisses de taux? 3 sont encore signalées pour 2024 dans les dernières projections, une de moins pour 2025 par rapport aux projections précédentes. Est-ce que de ce point de vue-là, le sens que la Fed veut donner à ces baisses de taux, est-ce que le marché est sur la même logique d'une certaine manière, Alexandre?
Oui, presque complètement. En fait, ce qui était étonnant dans ce que la Fed a annoncé la semaine passée, c'était quand même une forte révision de ses paramètres de croissance, donc des prévisions de croissance elles-mêmes calculées par la Réserve fédérale, à 2,1% en 2024, et nonobstant ceci, quand même une baisse des taux d'intérêt, ce qui montre bien que pour la Réserve fédérale, et c'est le sentiment qu'elle a voulu donner au marché, les aspects d'avoir une meilleure croissance n'est pas antinomique avec les faits de vouloir faire une baisse des taux d'intérêt. Donc la Fed a clairement indiqué que, quelles que soient les conditions de croissance, il y aura baisse de taux d'intérêt, et par la suite, ce seront les paramètres d'inflation qui dicteront si nous aurons droit à 3 baisses de taux d'intérêt, 4 ou éventuellement 2, sachant que sur la fin de l'année, les prises de décision seront plus compliquées parce que nous serons proches des élections. Et donc, il est important pour la Fed d'enclencher le mouvement avant la période des élections. Autrement, elle pourrait être vue comme cherchant à favoriser l'un ou l'autre des candidats si elle prenait sa première décision de l'année trop proche de la période électorale.
Il faut considérer une Fed qui sera encore très attentive aux données, y compris une fois la première baisse de taux délivrée, Alexandre. Il n'y aura rien de mécanique ou d'automatique dans les baisses de taux qui pourraient suivre la première baisse de taux de la Fed?
Absolument. Ça va être totalement clé. Vous l'avez mentionné, il y aura le PCE à la fin de cette semaine. On aura également les chiffres d'inflation du mois de mars qui vont être probablement plus importants que prévu, puisque le scénario, le sentiment du marché, c'est que peut-être janvier et février avaient été spécialement affectés par des éléments purement ponctuels sur janvier et février. Donc mars sera probablement le premier chiffre d'inflation qui va vraiment être important pour juger si effectivement janvier et février étaient particuliers ou si effectivement l'inflation est plus importante que prévu. Et par la suite, la dernière chose que voudrait la Fed, c'est de pouvoir commencer à baisser les taux d'intérêt de façon trop importante, avoir ensuite éventuellement, c'est une option, une économie qui redémarre avec l'inflation qui reprend, ce qui voudrait dire qu'elle serait à nouveau amenée à rehausser les taux d'intérêt par la suite. Donc il est probable que la première baisse des taux aura lieu au mois de juin, mais qu'ensuite, effectivement, ce seront les données qui vont dicter le rythme de baisse éventuelle pour avoir des futures baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.
En lien avec les politiques monétaires, Alexandre, le sujet de la devise chinoise, du yuan, redevient depuis quelques jours un sujet de vigilance pour les investisseurs après que on a vu le yuan franchir la barre de 7,20. Alors, dollar yuan, 7,20, barre franchie en fin de semaine dernière. Comme c'est une monnaie pilotée, on a compris que la banque centrale chinoise avait accordé, j'allais dire, cette marge de manœuvre pour laisser la devise se déprécier. Quel est le signal, quel est le message qu'il faut comprendre derrière ce petit mouvement du yuan observé en fin de semaine dernière?
Il y a un double message. Le premier message, c'est vraiment les conditions qui prévalent à l'intérieur de l'économie chinoise. Pour l'instant, le secteur immobilier ne se reprend pas. La demande de crédit est toujours très faible. Les transactions immobilières sont faibles. Et rien ne permet, à la suite du dernier congrès du parti, d'anticiper peut-être des mesures de support plus importantes données par l'État. Donc, on a un problème de faiblesse de l'activité économique en Chine, qui, dans certains cas, essaie plutôt d'exporter ces problèmes sur d'autres pays, notamment en exportant de l'acier à des prix extrêmement bas. Et puis, l'autre impact est un impact également du Japon, puisque finalement, malgré la décision de la Banque du Japon en début de semaine passée, on a vu que la monnaie continue à s'affaiblir, et donc le yen japonais est un élément de compétition important par rapport au yuan chinois, et pour l'instant, le yen japonais est particulièrement faible. Donc il y avait probablement un message à donner en disant, mais finalement, nous sommes contraints par une croissance économique faible, mais nous sommes contraints également par le fait que nos concurrents asiatiques ont une monnaie qui s'affaiblit plus rapidement que la nôtre, d'où la réaction sur le marché d'échange la semaine passée du yuan chinois.
Sur la partie yen, on a eu une première intervention verbale du vice-ministre des Finances en charge des affaires étrangères et donc de la devise japonaise qui est pilotée par les autorités politiques. On se souvient qu'en octobre 2022, sur ces niveaux d'intervention, au-delà de 150, on avait eu des interventions effectives sur les marchés de la part des autorités japonaises. Quand vous regardez les marchés globaux et notamment les marchés d'actifs risqués, Alexandre, je le disais en introduction, on a vu que les indices d'actions mondiales avaient progressé de l'ordre de 2% sur l'ensemble de la semaine passée, ce qui en fait la meilleure semaine de l'année 2024. Les records boursiers s'enchaînent. Si les marchés sont dans un schéma, comme le décrit la Fed, d'une croissance nominale plus élevée pour plus longtemps, est-ce qu'on est dans quelque chose, effectivement, de constructif, de favorable, qui peut permettre d'ailleurs peut-être aux valorisations des marchés d'être encore un peu plus élevées que ce qu'elles sont aujourd'hui?
Oui, c'est un point essentiel, parce qu'en fait, les valorisations élevées, si l'on prend le marché américain, est très fortement dépendant de quelques valeurs, on le sait, les fameuses magnifiques 7, qui d'ailleurs sont probablement plus que 4 que 7 aujourd'hui, mais c'est vraiment là que se situe la concentration. Si l'on suit le raisonnement que la Fed a mentionné, c'est-à-dire une croissance nominale plus élevée, mais en même temps des taux d'intérêt qui sont plus bas, le scénario possible qui peut se dessiner, c'est un scénario d'élargissement de la hausse du marché, puisque finalement, les petites capitalisations, les petites et moyennes entreprises à la bourse de New York n'ont pas vraiment participé à la forte hausse des marchés. Et peut-être que plutôt qu'avoir un marché qui continue à se concentrer sur quelques valeurs bien définies, on pourrait avoir un élargissement avec finalement de plus en plus d'entreprises qui bénéficient de la croissance économique, mais également et surtout d'un coût de financement plus bas, sachant que le segment des petites et moyennes capitalisations est beaucoup plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt, parce que ce sont des entreprises qui traditionnellement sont plus endettées. Donc peut-être que la situation, le scénario qui se développe, c'est peut-être un scénario, encore une fois, d'élargissement, de plus grands choix pour les investisseurs en termes de choix d'actifs à aller chercher dans ces marchés, plutôt que de rester sur un segment extrêmement concentré de la cote.
Ça veut dire quelque chose de plus soutenable, de plus durable, de plus confortable également pour des gestions diversifiées, pour la gestion des risques également dans les portefeuilles, Alexandre ?
Très probablement. Ça veut dire également un plus grand choix en termes de gestion active des portefeuilles, puisque finalement toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Si l'on continuait à avoir ce marché très très concentré, en gros, pour faire simple, il suffisait d'acheter ces 7 sociétés et on s'en sortait bien. Et dans un environnement où les choses sont en train de s'égaliser, ça veut dire qu'on va pouvoir à nouveau rechercher dans chacun des secteurs quelles sont les entreprises qui sont vraiment celles qui ont des objectifs de croissance élevés dans cet environnement-là et qui ne dépendent pas trop de taux d'intérêt pour se refinancer à nouveau. Donc ça veut dire élargissement, choix peut-être où l'on peut aller regarder à l'intérieur du marché en étant plus sélectif et plus discriminant en termes de choix de société que l'on veut avoir dans son portefeuille.
Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce contexte de ce qu'on observe sur les marchés de taux et de crédit, Alexandre ? Est-ce que là aussi, l'idée d'une croissance nominale plus importante porte ses actifs et ses actifs risqués pour la partie crédit ? Est-ce qu'il y a des sujets d'offres, de supply qui commencent peut-être aussi à se matérialiser dans ces marchés aujourd'hui ?
Alors, pour être tout à fait clair, les marchés du crédit aujourd'hui, si je regarde l'écart de rendement que l'on obtient aujourd'hui pour prendre un risque crédit par rapport à un risque d'obligation souveraine, ce risque est très très faible aujourd'hui. Pardon, cette rémunération est relativement faible aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on arrive plutôt à la fin d'une compression de ces spreads. Et donc, c'est important aujourd'hui de regarder quelles sont les entreprises que l'on veut avoir, quelles sont les entreprises qui n'ont pas de problème de refinancement. Le côté positif de ce que l'on a vu déjà depuis le début de l'année, ça a été vraiment une ouverture complète des marchés de refinancement avec beaucoup d'entreprises qui ont pu profiter de cette fenêtre pour venir de façon active se refinancer. Dans un environnement où les marchés ont plutôt anticipé une baisse des taux souverains, ce qui veut dire, et ça c'est positif pour les entreprises, que l'écart entre le taux moyen du marché et le coupon qui est demandé à l'émission de ces obligations-là a baissé, donc c'est un élément qui est positif. Mais effectivement, se pose la question de l'offre et de la demande aujourd'hui. On a beaucoup d'offres qui vient sur le marché. Restera à savoir si du côté des acheteurs, on ne va pas exiger une légère prime maintenant, légèrement plus élevée, pour obtenir encore une fois, pour avoir l'intérêt d'acheter ces obligations. Pour l'instant, la situation de demande et d'offre est parfaitement équilibrée, il n'y a aucun problème, mais se posera la question peut-être plus sur un horizon de temps, 3 à 6 mois.
Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet éclairage sur la situation des marchés en ce début de semaine, après la séquence Banque Centrale du mois de mars. Alexandre Tavadi était avec nous en visioconférence, responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management.